Bon bah bonjour à tous et bienvenue à cette session. Donc la session est autour de Azure Mobile Services. C'est donc un package, un bout de framework qu'a sorti Microsoft récemment. Et l'objectif c'est donc d'interconnecter Azure et toutes les technologies mobiles, les applications mobiles genre tablette ou Windows Phone 8. Donc on va se présenter. Donc moi je suis Bastien Vincent Bizet, consultant MC Next, et voici Sébastien Putier, également consultant chez MC Next. Donc MC Next en quelques mots. Alors c'est une société spécialiste Microsoft, donc qui est implantée à Paris et à Lyon. Et en fait le groupe MC Next est composé de plusieurs entités. Donc il y a MC Next, Plaza Design. Donc Plaza Design est en fait la web agency de MC Next qui est spécialisée dans le web et SharePoint. iNext, donc iNext qui est notre société de service également à Genève que vous pouvez rencontrer sur le salon. Et iTouch qui est spécialiste iPhone, iPad implanté à Paris. MC Next, en quelques chiffres, c'est 160 collaborateurs. 15 millions de chiffre d'affaires pour 2011, ça fait plus 35% de croissance annuelle depuis 2007. MC Next est membre du Microsoft Apple Apps Circle. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une sélection de partenaires de Microsoft dans la réalisation d'applications Windows 8, Windows Phone et Windows Modern UI. Et bien sûr, MC Next est certifié Gold Partner. Donc l'agenda pour savoir comment va se passer cette session. Donc au début on va vous présenter qu'est-ce que Windows Azure Mobile Services. Et ensuite on mettra un peu les doigts dans le code pour vous montrer plusieurs trucs. Donc comment créer un service mobile, comment se passe le stockage des données dans ce service, l'authentification des utilisateurs, les notifications. Enfin on finira par quelques trucs, astuces et questions-réponses.
Donc, allô? 1, 2, 1, 2. Azure Mobile Services, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, comme Bastien vous l'a dit, donc c'est simplement un bout de framework, un service qui a été développé par Microsoft qui va vous permettre d'ajouter quelques fonctionnalités intéressantes rapidement et simplement sur vos applis Modern UI ou Windows Phone. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la possibilité d'avoir du stockage dans le cloud. Donc, tout simplement, vous avez une base SQL Azure dans le cloud que vous allez pouvoir attaquer très très simplement. Vous avez la gestion des notifications, push notamment, qui vont vous permettre de faire des retours à vos utilisateurs très très simplement. Vous pouvez authentifier vos utilisateurs, comme on va le voir via plusieurs fournisseurs. Et vous avez accessoirement la possibilité d'accéder à Windows Azure, le vrai, le grand, à travers Mobile Services. Donc, comme je vous l'ai dit, ce service est très simple. On a un SDK qui a été fourni par Microsoft qui contient quelques classes. Je crois qu'il y en a 7 ou 8, un truc comme ça. Très très simple à prendre en main. Et vraiment, c'est le bonheur. Accessoirement, en fait, pour utiliser le stockage, si vous avez une application Android par exemple, faut pas le dire, mais il y en a, vous pouvez utiliser REST. Donc en fait, ça va être très très simple aussi. C'est quelque chose que vous allez pouvoir adapter un petit peu partout. Et enfin, il faut quand même pas oublier que ce service est en preview. Il peut éventuellement avoir des petits soucis. J'en ai pas vu pour l'instant, mais on ne sait jamais. Ce service est pour l'instant gratuit. En tout cas, quand vous utilisez la configuration minimale, qu'on va voir après. Ça ira bien. Donc ce service est utilisable entre autres sur iOS. Étonnamment, Microsoft a fourni le SDK qui va bien en Objective-C, tout ça. donc le 16 octobre. Du coup, en fait, vous pouvez vous dire que c'est un service que vous allez pouvoir utiliser vraiment partout. Vous allez pouvoir l'utiliser sur vos applis Windows 8, Windows Phone, iOS, Android si vous utilisez REST. Vraiment, vous pourrez avoir quelque chose d'unifié. Et bah, le SDK est en open source, donc disponible sur le net. Vous pourrez voir un petit peu comment c'est fait. Et entre autres, justement, si vous voulez utiliser REST, n'hésitez pas à regarder comment c'est fait à l'intérieur. Donc pourquoi est-ce qu'on peut l'utiliser? Eh bien, tout simplement, quand on a besoin de fonctionnalités simples, courantes, telles que le stockage de données qu'on veut partager, et quand on veut authentifier des utilisateurs. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous êtes déjà amusé à créer des providers d'authentification, ce n'est pas toujours très très drôle. En fait, avec Mobile Services, vous allez pouvoir passer par des providers existants pour gérer tout ça. Et comme je vous l'ai dit, c'est très très simple. Donc en gros, pour récupérer le contenu d'une table sur Azure, vous avez besoin de trois lignes. Pas besoin de franchement plus. Il faut penser aussi que le schéma des tables que vous allez avoir dans le cloud, il est dynamique. C'est-à-dire que sur un service qui est en cours de développement pour vous, vous avez quelque chose qui va être facilement adaptable. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous compliquer la vie à supprimer vos tables, les recréer, faire des updates, faire des choses. Vous êtes en cours de développement. Vous insérez un objet et basta. Il se débrouille très bien avec ça. Et donc, du coup, comme le SDK est là, vous n'avez pas besoin de coder une passerelle quelconque d'ailleurs pour accéder à vos données. Vous avez tout ce qu'il faut, c'est très très simple. J'insiste là-dessus, mais vraiment, vous allez le voir, c'est pas mal. Donc pour l'authentification, comme je vous ai dit, vous avez quatre providers qui sont supportés aujourd'hui. Microsoft, évidemment. Google, Facebook, Twitter. C'est le truc, bien pratique. Tout le monde n'a pas forcément un compte live, malheureusement. Mais vous avez des gens, voilà, que vous pourriez authentifier très simplement avec Facebook. En gros, tout est géré par le système. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de créer de textbox, de trucs, de machin. Tout est géré directement par le système.
Alors, on pourrait croire que tout ça, c'est bien joli, il n'y a pas de limitation, c'est bien sympa et facile à utiliser. En fait, il y a quand même quelques limitations. Il faut savoir que le serveur derrière qui va recevoir les requêtes et les traiter, en fait, n'est pas en .NET, mais en Node.js. Et Node.js, c'est du JavaScript et du coup, on arrive vers quelques limitations, principalement sur les types des données. C'est-à-dire que les types de données complexes ne sont pas supportés et les types supportés sont les numériques, les booléens et les chaînes de caractères. Et on peut vite se retrouver bloqué. Par exemple, vous voulez ajouter une date pour, je sais pas, moi, loguer à chaque fois qu'un de vos utilisateurs, enfin, un des utilisateurs d'une appli Windows Phone 8, je sais pas, moi, se connecte au serveur ou démarre et un là, vous allez vous retrouver bloqué parce qu'il va falloir passer par une chaîne de caractères, entre autres. Une des autres limitations va être l'authentification. L'authentification, comme vous avez vu, il y a Google, Microsoft, Twitter, Facebook, mais vous pourriez dire, moi, j'aimerais interconnecter mon utilisateur sur mon système personnel, que ça peut être un AD ou quoi. Et là, en fait, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il n'est pas possible d'utiliser un custom provider et de le développer. L'authentification, actuellement, ne passe que par les quatre fournisseurs précédemment cités. Donc après, on espère peut-être que dans d'autres releases, il sera possible d'ajouter ces custom providers pour s'interconnecter sur justement sur nos notifications d'entreprise. On en a vite fait parler pour la tarification. Alors en fait, il y a deux modes. Il y a le mode share, partagé. Dans ce cas-là, en fait, c'est gratuit. Donc vous avez le droit de créer jusqu'à 10 services Alors en fait, c'est du mutualisé. Et chaque service a un quota de 165 mégaoctets sortant. Et vous avez un mode reserved instance. Donc là, dans ce cas-là, en fait, vous avez votre propre instance, personnalisée dans le cloud. Et là, c'est un paiement à l'utilisation. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 100 services. Et seul en fait le trafic sortant, ou par exemple, si vous utilisez une base de données avec X gigaoctets, en fait, vous payez tout à l'utilisation. Donc on va commencer maintenant à rentrer un peu dans le code pour vous montrer en fait d'abord comment créer un nouveau mobile services. Alors là, c'est l'écran de Manage Windows Azure. Donc en fait, au lieu de vous faire des écrans, je crois qu'on a le net, c'est ça? Ouais, je crois qu'on a le net. Donc on va. C'est ici. C'est ici, voilà. Donc là.
Bah
Voilà. Alors ça, c'est quoi? C'est le. Non, ça, c'est la presse.
c'est
Tac. Voilà. Donc, hop. Donc là, vous voyez, on est sur le compte. Ah, donc là, on est sur le compte, sur notre compte Azure. Donc, et on va dire qu'on veut créer un nouveau service. Donc c'est un service mobile ici. Il suffit de cliquer sur Nouveau. Hop, donc voilà, on veut un service mobile. On va le créer. Donc là, il suffit de donner l'URL. Hop, bah, voilà.
Voilà, celui-là on est sûr qu'il va utiliser. Hop. Si j'évite de faire des fautes, ce sera mieux. Allez.
Voilà, donc on va utiliser l'instance de base de données SQL qui existe et choisir la région. Alors, de souvenir, notre base de données SQL dans Azure, elle est sur la côte est. Donc on va choisir le même endroit parce qu'en fait, sinon, il considère que c'est deux régions différentes et on va devoir payer le fait que ce soit dans deux instances différentes. Donc, la base de données, elle est là. Le mot de passe, tu le connais?
Voilà, normalement c'est bon. Ouais,
Ouais,
c'est bon.
c'est bon. Et voilà. Donc là, on voit que le service mobile est en cours de création.
Donc ça prend un petit peu de temps, mais
Et en fait, après ça, normalement, c'est tout bon. Voilà.
voilà.
Donc maintenant, notre service mobile est créé et il est prêt à l'emploi. Donc voilà. Donc là, bah après, si tu veux expliquer, du coup, comment après continuer et utiliser.
Vas-y,
Alors, par
on met
contre, on va
l'essai.
faire hop, ça. Et là, on doit être dans le. Non? Si. Dans les slides. Donc ça, en gros, c'est comme on n'était pas certain d'avoir Internet, on avait mis des slides. Voilà.
Voilà. Donc, on vous a parlé du stockage dans le cloud. Donc, c'est une base SQL. Vous avez accès à des tables. C'est très très simple. Vous pouvez créer votre schéma. Vous pouvez utiliser la version dynamique des choses et vous pouvez spécifier des autorisations, des permissions sur ces différentes tables. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une autorisation en public, donc à peu près n'importe qui peut l'utiliser. Vous pouvez utiliser les tables à partir d'une application spécifique. Vous pouvez autoriser l'écriture ou la lecture ou n'importe quoi d'ailleurs aux utilisateurs, juste pour les utilisateurs authentifiés, pardon. Et vous avez aussi une permission qui peut être sympathique, qui est uniquement script et admin. Donc ça peut être intéressant dans certains cas, pour du log, pour des choses comme ça. Vous pouvez vous en sortir pas trop mal. Donc au niveau des scripts, justement, en fait vous pouvez coder ce qu'on pourrait appeler des triggers en JavaScript. C'est-à-dire que vous pouvez intercepter les événements d'insert, update, lecture, etc. Et les coder, enfin et coder un petit peu en JavaScript pour pouvoir faire des choses qui peuvent être intéressantes. Donc, par exemple, vous pouvez envoyer des notifications quand un utilisateur insère une donnée. Si vous avez géré ça correctement, vous pouvez l'envoyer à ses amis ou à des choses comme ça. Vous pouvez faire de la mise à jour de données en cascade, ça peut toujours être intéressant. Vous pouvez appeler des web services, parce que on a affaire, enfin on est sur un serveur Node.js qui a quelques modules intéressants d'installer, et entre autres celui qui permet de faire ça. Vous pouvez gérer des logs, donc comme je vous l'ai dit. Donc sur le stockage de données, c'est très très simple, comme je vous l'ai dit. En gros, vous créez votre projet, donc on va dire dernière nuit. Vous ajoutez une référence au SDK qui va bien. Dans le namespace Microsoft.WindowsAzure.MobileServices, vous avez toutes vos classes. Celle qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est Mobile Service Client. Pour vous connecter au service. Donc en gros, vous allez l'instancier, très simplement en lui passant que je me trompe pas, l'URL de l'application. Donc on l'a vu brièvement tout à l'heure dans l'écran d'admin. Et la clé d'application qui va avec. Voilà, après, sur l'exemple, je récupère une liste de bouquins qui sont censés être enregistrés dans le cloud. Vous voyez, en trois lignes, on a quelque chose de fait et qui fonctionne. Donc c'est extrêmement simple. Je vais vous montrer en live un peu ce que ça peut donner, même si il n'y a pas énormément de choses. Où est-ce que j'ai planqué Visual Studio? Je l'ai perdu. Il est là, pardon.
Par contre, il n'y a pas switché.
Ouais, j'ai du mal, hein. Là. Hop. Alors, hop, ça. Hop, on regardera après. Alors, qu'est-ce qu'on a? Merde.
C'est pas pratique, en fait.
Je sais plus comment on duplique l'écran. C'est fou, ça. Je te remercie. Alors, excusez-moi. Donc, très simplement, donc on va partir d'une classe book. Que j'aime bien les bouquins, donc voilà. Très simplement. Je vous ai fait une petite appli bête et méchante qui va enregistrer des éléments dans le cloud et les lire. Donc en gros, comme l'interface n'a pas vraiment d'intérêt, on va regarder ça. Donc ici, donc on instancie notre service. C'est fait une fois, on est tranquille. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez simplement l'URL de l'application, la clé qui va avec. Ah, quel maladroit. Et après, pour la lecture, comme je vous l'ai montré dans le slide, en trois lignes, y compris l'instanciation, vous avez votre liste. L'insertion est pas beaucoup plus compliquée. Donc en deux lignes, vous récupérez la table, vous insérez des données à l'intérieur. Et j'aurais peut-être dû faire ça. Ça permettrait d'aider. Et pour la suppression, c'est pareil, en deux lignes, vous avez quelque chose de fonctionnel. Hop. Bon, faut le temps que ça déploie, forcément. Bon, du coup, hein, c'est décidé de m'embêter. Voilà, très simplement, je vais insérer des données. Hein, hop, des données toujours très intéressantes. La donnée est insérée. Normalement, voilà. Ah, il est là. Pas de chance. Bon, voilà. En gros,
Voilà. Tu sais lire.
Très simple. Trois lignes. Vous faites à peu près ce que vous voulez, au moins pour les tables. C'est.
Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que les données, en fait, elles sont dans le cloud, c'est-à-dire elles sont hébergées sur Azure. Donc en fait, ça vous permet d'accéder à vos données depuis, si vous voulez faire une application Windows 8 pour tablette ou pour Windows Phone 8, vous avez un stockage de données gratuit, puisque vous pouvez faire jusqu'à 10 services dans le cloud.
Et
en gros, en quelques lignes, vous pouvez y accéder, et les lire et les éditer.
Et partager. Hop, bon, bah allez, c'est reparti. Tu peux me remettre l'écran qui va bien ? C'est quoi le raccourci, putain ?
Alors, c'est. Hop. Non, c'est pas ça.
Excuse-moi. J'ai du mal, hein.
Excusez-moi. Raté. Non, ça c'est dupliqué. Bah, fais comme ça.
Bon, pas grave. Donc pour l'authentification, je vous l'ai dit, c'est quelque chose de très simple aussi. Je vais prendre l'exemple de Microsoft parce que on est quand même au Tech Days. En gros, vous avez vraiment trois choses à faire. Vous connectez sur Live Connect pour indiquer que votre application va utiliser l'authentification. Vous configurez le mobile service en lui donnant la clé que Live Connect va vous fournir. Et après, un petit peu de code JavaScript pour éventuellement insérer un ID d'utilisateur dans votre base de données ou ce genre de choses. Et un peu de .NET juste pour dire de lancer cette authentification. Pour les autres fournisseurs, c'est à peu près pareil. Pour Google, vous connectez pareil sur le portail des devs, vous enregistrez votre appli, vous avez une clé, vous la mettez dans votre service et c'est gérable. On va voir vite fait en pratique ce que ça donne. Dans mon mobile service que j'ai créé exprès, je vais l'enregistrer. Je vais le créer d'abord dans le portail des développeurs Live Connect. Donc vous voyez, il est enregistré ici. Vous pouvez créer une application simplement, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Il est créé sur le portail. Et donc, vous pouvez voir là-dedans des données un petit peu intéressantes, qui sont donc votre ID client et votre clé secrète. Ces données, vous les récupérez et vous pouvez les fournir à votre service via cet onglet identité. Voilà, vous voyez que c'est... C'est pas plus compliqué que ça. Je lui ai fourni les données. Pour les autres providers, je peux faire exactement la même chose. Donc, je l'avais fait pour Google. Et du coup, normalement, tout devrait fonctionner convenablement. Allez. Je vais utiliser Microsoft. Je suis allé un petit peu trop vite. Ah, forcément, tout va bien. Bon, essayons avec Google. Hop.
Donc là, en fait, on a demandé à Google qui nous authentifie. Google ne nous a pas reconnu et donc nous propose en fait son interface pour s'authentifier. Voilà, c'est Google donc là qui va faire l'authentification, qui va vérifier selon ses serveurs si effectivement cette connexion est valide. Et après, dans le cas où par exemple ici la connexion est valide, il va nous retourner l'identifiant unique. Donc en gros, celui-ci correspond à l'identifiant unique du compte de Sébastien.
Voilà, donc effectivement, ça peut être un tout petit peu perturbant. Vous avez pas eu, vous récupérez pas une adresse email, vous récupérez vraiment un identifiant unique Google dans ce cas. Mais les. Enfin, c'est. On a vraiment quelque chose d'unique et du coup, vous pouvez vous en sortir très facilement.
Alors, vous allez dire à quoi cela peut servir. Donc, juste si tu peux montrer. Dans ta démo, tu l'as toujours ou pas?
Excuse-moi, ouais.
Tu l'achètes dedans. C'est normalement, donc, ce compte-là a certains livres.
Normalement.
Normalement. Voilà. Donc,
des
il y a certains livres.
Très intéressant.
Là, il y a moyen de se déco facilement. Il faut shut down.
Ouais, il faut que je ferme l'appli.
Donc, là, on voit par exemple qu'il y a certains livres pour ce compte-là. Et en fait, il faut savoir que donc, ces livres sont stockés directement dans la base, dans la table bah, Books qui est créée. Et si tu relances et que je vais m'authentifier cette fois avec mon compte, on va taper dans la même base, sauf que on va demander uniquement les comptes qui sont liés au compte, enfin uniquement les livres qui sont liés au compte. Donc, si tu fais, hop.
Attends, je vais juste faire ça avant pour pas l'oublier.
Et donc là, normalement, moi, je crois que j'ai mes livres. Donc on voit, voilà, j'en ai qu'un seul. Donc là, tu peux montrer juste la table pour montrer qu'en fait, tout est au même endroit. Ça peut être pas mal.
Non,
c'est plutôt souillon.
Donc quand on regarde nos données, on a ça.
Voilà, on voit la liste de tous les livres et on voit bah, dans la colonne User ID, en fait, les comptes Google qui sont liés aux comptes justement qui sont utilisés. Donc actuellement, on n'a que des comptes Google parce qu'il semble que Windows Live ID a des problèmes.
Pas de chance.
Voilà.
Bon. Donc, dans le code, comment c'est fait? Bah, très très simplement. Donc en gros, vous utilisez cette méthode. Donc, hop. Pardon. Donc, mobileservice.loginasync qui va s'occuper de tout seul, qui va vous ouvrir la petite fenêtre qui va bien, qui va lancer l'authentification et qui va vous récupérer le résultat. Voilà, vous lui passez le fournisseur que vous voulez. Vous avez donc les quatre fournisseurs que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Et voilà, c'est très très simple. Là ici, Google, Facebook, une ligne, et on peut gérer ça. Du côté du serveur, on a nos identifiants uniques, mais il faut savoir que on les a insérés un petit peu à la main, parce qu'on les a pas dans l'appli. On les récupère d'une manière un petit peu particulière avec les triggers JavaScript dont je vous ai parlé.
Voilà, donc en fait là c'est la possibilité de personnaliser un peu des actions côté serveur. Donc il n'y a que certaines méthodes, je crois que c'est que les méthodes crudes que l'on peut personnaliser. Et donc là on a décidé de personnaliser la fonction insert et en ajoutant donc lorsque on insère un item, on rajoute à la colonne en fait un user ID. Donc comme ça permet de connaître les utilisateurs qui ont inséré des données. Donc en fait ici ce qu'il faut voir c'est qu'en fait c'est un override. Enfin, on override de côté serveur l'insertion. Ça permet en fait de rajouter des spécificités. Ici, on rajoute par exemple l'utilisateur. Et du coup, tu montes juste la consulte. Mmh. Hop. Et en fait, pour consulter de souvenirs, je crois que c'est pareil. Voilà, c'est ça. Donc ici, pour consulter, en fait, quand un utilisateur va faire la demande de consultation, on veut qu'il ne voit que ce qu'il concerne lui. On veut pas forcément, par exemple, que Sébastien voit mes livres. Et dans ce cas-là, en fait, sur la requête, on ajoute une condition where en JavaScript et on dit juste l'user ID égale user ID. Donc voilà en fait comment faire d'une application très simple en fait à gérer plusieurs comptes tout simplement.
Donc on vous a parlé de l'authentification des utilisateurs, mais on peut aussi gérer donc les notifications push qu'on va pouvoir personnaliser pour les utilisateurs, etc. Donc pour ces notifications, il suffit d'enregistrer votre application sur le Windows Store. Donc il faut un compte développeur. Là, vous n'avez pas forcément le choix. Il faut que vous récupériez les infos qui vont bien sur le portail Live Connect. Parce que c'est comme ça. Et après, configurer le service et vérifier que votre appli peut recevoir les notifications. Ça marche mieux. Donc, je vais vous montrer tout simplement comment on envoie la notification, mais en JavaScript du côté du serveur. Du coup, le code .NET qui va bien. Juste pour l'info, vous avez un petit peu de documentation qui est disponible, parce que les notifications sont envoyées à partir du serveur Node grâce au module WNS. Toute la liste des méthodes que vous pouvez utiliser pour cet envoi de notification, pour du texte, des images ou n'importe quoi d'autre, vous l'avez sur le lien court là, que je vous ai donné. N'hésitez pas à y jeter un œil, vous avez beaucoup beaucoup de choses qui sont disponibles.
Alors aussi, là, donc c'est les notifications qu'on a vues, c'est les notifications que l'on peut faire qui apparaissent souvent à l'écran. Par exemple, on va penser à un téléphone en haut dans la barre. Il y a d'autres notifications possibles qui sont supportées. Donc c'est les notifications par SMS. Donc je ne sais pas, moi, votre client, enfin votre utilisateur a fait un achat grâce à votre application. Vous voulez peut-être lui envoyer un SMS ou lui envoyer un mail. Donc là, le SMS, c'est possible de le faire. Alors le problème, c'est que en fait, il faut passer par des partenaires de Microsoft. Pour les SMS, donc c'est Twilio. Donc c'est un service par contre qui est payant. Et en fait, il suffit par Node.js d'appeler une requête HTTP. Et grâce à cette requête HTTP envoyée au partenaire Twilio, il est possible d'envoyer en fait des SMS. Et il y a une notification aussi également mail. Donc là, c'est également dans le même cas. Votre client fait un achat, vous lui renvoyez sa commande, sa facture par email. Donc c'est également possible. Par contre, dans ce cas-là, c'est un autre partenaire Microsoft, c'est SendGrind, qui a fourni donc une classe qui permet de contacter les personnes d'envoyer un mail aux utilisateurs. Donc on va faire, tu fais la démo d'abord et puis après je fais celle la suite.
Pour les notifications. Alors, hop là. J'ai un service qui est créé ici avec une table book toujours. Sur cette table, on a des triggers. Et donc sur le trigger d'insertion, j'ai simplement rajouté le code qui va bien pour envoyer cette notification. Donc on explique qu'on veut exécuter la requête. En cas de succès, on dit que la requête s'est bien passée. Pour le client, ça peut être intéressant. Et après, de manière relativement asynchrone, on va envoyer via le module WNS la notification sur un channel. Donc je vais vous montrer comment on le récupère avec le texte qu'on veut. Hop là. Donc, dans cette démo, je vous ai mis l'authentification des utilisateurs. On envoie comme ça la notification uniquement à un utilisateur. On évite d'avoir des soucis. Et au niveau donc du code, il suffit simplement de faire ici. Pardon. Donc il suffit de récupérer le channel de push qui va permettre au serveur Node de renvoyer les infos à votre client. Donc une ligne très simple. Une fois que vous avez votre canal de communication, vous allez juste insérer votre item, mais en disant que vous voulez stocker le channel avec discrètement. Plus ou moins le seul moyen qu'on a de faire passer l'information au serveur. Donc vous lui donnez l'information. Et une fois que le serveur reçoit la requête, il est capable de gérer. Donc il reçoit un canal sous la forme d'une URL. Hop, du coup, on va en créer un. Donc du coup, on est toujours obligé de se connecter. Me suis pas trompé. Donc, je vais insérer mon livre Toto, toujours très intéressant. Et voilà. Donc le serveur est capable de renvoyer une notification pour dire que mon livre a été inséré. C'est super simple. Et en même temps, ça vous ouvre, on va dire, des scénarios qui peuvent être intéressants dans le cas de, d'une application sociale. Et dans notre table, on a récupéré un channel qui est sous la forme d'une URL. De ce type. Bon, dans le détail, elle n'est pas forcément très intéressante, il suffit simplement de savoir ce qu'on a. Alors, hop là. Voilà, on a deux, trois petits trucs qui permettent, on va dire, une utilisation peut-être un peu plus confortable du service. On ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'on peut ou qu'on ne peut pas faire. Il faut savoir déjà qu'on peut aller taper dans Azure, dans le vrai grand Azure, à partir de notre service. Donc le module Azure de Node.js est installé sur le serveur. Vous pouvez taper dedans en JavaScript. Avec toutes les méthodes que vous avez peut-être l'habitude d'utiliser. Pourquoi? Un cas qui m'est venu à l'esprit, c'est si vous faites on va dire du data mining, vous récupérez des statistiques d'utilisation dans Azure pour plusieurs applications. Et ben du coup, à partir de Mobile Services, vous allez pouvoir remplir cette base pour pouvoir gérer un petit peu tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi avoir envie de vous intégrer à un système complètement existant. C'est pas forcément ce que je vous recommande parce que le SDK Azure et toutes les informations qu'on peut déjà avoir sont plus intéressantes. Mais voilà, ça peut vous servir de passerelle si vous avez envie de stocker toutes vos données dans Azure. Vous pouvez le faire avec le JavaScript sur Node.js. Et autrement, n'hésitez pas à inventer. Il y a, je pense, pas mal de cas. Ou de scénarios qui peuvent être très intéressants sur des applis qui sont personnelles ou professionnelles. Donc je pense que vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. Vous avez quand même un petit peu de code dispo sur l'Azure Node.js Developer Center. Donc vous avez notamment, je crois, un exemple qui vous montre comment stocker des données blob. Dans le blob storage. L'intérêt, je pense, est un peu plus limité en direct, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc voilà plus ou moins le genre de code qui est nécessaire d'utiliser dans votre trigger. Donc là, sur l'insertion, j'ai eu envie de stocker mon livre dans Azure. Comment je fais? D'abord, je dis que je vais utiliser la connexion à Azure. Donc j'utilise le module Azure. Je spécifie les données d'authentification qui vont bien pour pouvoir me connecter à Azure. Je crée la table si elle n'existe pas, parce que bon, aller stocker des infos dans une table qui n'existe pas, c'est un peu compliqué. Et après, vous stockez vos données dans Azure comme vous le feriez habituellement, avec une partition key, une row key, comme identifiant, vos données, et vous êtes tranquille. Vous pouvez tout faire. Donc pour le stockage de données, vous pouvez faire d'autres choses un petit peu intéressantes. Il faut penser que vous utilisez un service REST, comme on le fait habituellement avec les services REST en .NET. Vous pouvez utiliser les attributs DataMember et IgnoreDataMember quand il y a des données que vous ne voulez pas stocker, que vous n'avez pas besoin de les avoir en permanence dans la base. Faut penser à les utiliser, parce qu'après en JavaScript, c'est le bazar derrière. Si vous voulez enlever des données, si vous voulez... Pour les types non supportés, si vous voulez stocker, je ne vais pas vous dire un fichier binaire parce que c'est un peu plus compliqué, mais si vous voulez stocker une date, un objet complexe que vous utilisez, un objet métier, en fait, le serveur node.js ne va pas les reconnaître. C'est pas le serveur qui va pas les reconnaître, c'est le SDK qui va pas les reconnaître, qui va mal les sérialiser. Donc en fait, il faut simplement expliquer comment les sérialiser. Donc vous avez pour ça une interface eDataMemberJSONConverter qui a deux méthodes, hein, convert to JSON et JSON to string ou quelque chose comme ça, que vous avez à implémenter, et en gros vous pourrez avoir votre communication très très simple avec des données complexes. Et il faut mettre un attribut qui va bien sur la propriété à stocker. Donc data member JSON converter. Maintenant, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si on a été toujours très clair. N'hésitez pas, allez-y. Ouais. Alors justement, c'est un scénario qui me paraissait intéressant. J'ai essayé un petit peu tout ça, et à ma connaissance, il n'est pas possible de connecter les deux systèmes d'authentification. À chaque fois, on a un user ID unique, et on n'a aucune possibilité de connecter les deux.
Votre question, c'était bien de savoir si c'est possible d'utiliser deux authentifications en même temps. Non, ou de savoir le fournisseur?
De connecter les deux.
Oui. Non, en fait, l'ancien identifiant sera systématiquement écrasé par le nouvel identifiant.
Ouais. Ouais. Non, il n'est pas possible de les récupérer. Le problème, c'est que l'identifiant qu'on récupère avec un provider, il n'est pas partagé avec les autres providers. Donc votre identifiant Google unique ne sera pas le même que l'identifiant live unique. Bien sûr. Une application Modern UI.
Modern UI Windows 8.
Voilà. Il faut savoir que vous pouvez faire pareil avec du Windows Phone 8, puisqu'il est supporté en natif. Vous pouvez le faire avec du iOS. Donc après.
C'est vrai que c'est vraiment à destination des applications. Alors on va dire mobile, mais dans les applications mobiles, il faut voir aussi les tablettes, ce qui tourne sous Windows 8 Modern UI pour justement WinRT. Donc c'est par exemple, vous voulez qu'un utilisateur il puisse récupérer les mêmes données que qu'il soit sur son téléphone ou sur sa tablette ou sur son PC qui peut être qui a récupéré l'application. Donc grâce à ça, en fait, en gros, on peut dire que les données sont stockées dans Azure. Dans Azure. Et du coup, en s'authentifiant à chaque fois, que ce soit sur son téléphone, soit sur sa tablette, il va pouvoir récupérer les données.
Pourquoi ça s'appelle mobile ? Parce que en fait, ça permet de faire un stockage à n'importe quel type d'application.
Disons que si vous voulez faire une application client, on va dire bête et méchant en desktop, autant utiliser l'Azure classique. Là, vous avez quelque chose qui va être utilisable très très simplement, vraiment par à peu près tous les types de plateformes mobiles que vous avez aujourd'hui. Vous avez un SDK pour iOS, donc vous ciblez l'iPhone, l'iPad. Vous avez un SDK pour Windows Phone 8. Voilà, vous ciblez de la mobilité et vous avez un SDK pour les applis Modern UI. Donc au niveau tablette, voilà, vous ciblez encore. C'est vraiment fait pour ça, dans cette optique. Pour Windows Phone 8, à ma connaissance, non. Maintenant, je l'ai peut-être pas vu, à vérifier. Comme il est sorti, on va dire très récemment, je vous avouerai que j'ai pas encore tout vu. Mais je vous vérifie ça dans l'heure et puis me retrouver sur le stand d'Inex et je vous dis ça. Non. Aujourd'hui, malheureusement, vous n'avez pas cette possibilité de créer votre provider d'authentification. Non, c'est simplement que ce n'est pas encore prévu dans le service. J'espère que ça le sera bientôt. C'est bon pour vous ? Bon. Si c'est tout bon,
Ouais, merci pour votre présence.
Merci beaucoup.
Puis retrouvez-nous sur le stand d'Inex si vous avez des questions ou si vous voulez discuter, il n'y a pas de.
Voilà, c'est en sortant juste à gauche. N'hésitez pas une seconde.